Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'ai vraiment failli m'étouffer ce matin en lisant mon journal, m'étouffer donc dans mon petit café espresso. Pourquoi? Parce que j'ai vu les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie, la secrétaire générale qui, pour son appartement de fonction, s'est payé des canapés Roche-Beaubois. Là, quand vous regardez là dans la liste de meubles les plus chers à peu près sur le marché, c'est des Roche-Beaubois. Là, c'est tout juste, il faut pas payer pour rentrer dans un magasin Roche-Beaubois pour regarder les meubles. Alors, elle a non pas un, mais deux canapés Roche-Beaubois chez elle qui ont coûté 12 000 $ chacun. J'aimerais lui rappeler, il y a des gens au Québec, là, 12 000 $ c'est leur salaire annuel. Mais là, vous prenez cet argent-là pour acheter un canapé à 12 000 $ Votre popotin est-il tellement royal, tellement spécial que ça vous prend un canapé à 12 000 $ quand vous vous asseyez? Puis à 12 000 $ le canapé, j'aimerais ça savoir combien coûtent les coussins. Franchement, à l'Organisation internationale de la francophonie, il y a des gens qui se moquent de nous. Puis le fait qu'ils se moquent de nous en français n'arrive pas à effacer le fait qu'on se moque de nous. Quand j'ai vu ces chiffres-là dans le journal ce matin, j'ai poussé un très découragé. Ben voyons donc.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
S'il y a un dossier délicat que les chroniqueurs habituellement prennent avec des pincettes, enfilent leurs gants blancs, marchent sur des œufs, tournent leur langue sept fois dans leur langue, dans leur bouche avant de parler, tournent sept fois leurs doigts au-dessus de leur clavier avant de taper, s'il y a un sujet donc qui provoque autant de prudence, c'est bien celui des personnes transgenres quand on parle des adultes. Alors imaginez quand on parle des personnes transgenres chez les moins de 18 ans, c'est vraiment un dossier explosif. C'est pour ça que je trouve très courageux, peut-être un peu inconscient, mon ami et collègue Joseph Facal qui écrit sa chronique d'aujourd'hui à ce sujet-là. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie.
Écoute, je fais une longue... Oui, vas-y, je fais une longue présentation parce que, écoute, c'est... tu dis un mot, une virgule de travers dans ce dossier-là qui est extrêmement délicat, même si ça devrait pas l'être, et tu te fais traiter tout de suite de transphobe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as choisi, toi, de parler de la dysphorie de genre chez les mineurs?
Alors, écoute, Sophie... Premièrement, tu m'as un petit peu, et je le dis sourire aux lèvres, tu m'as un petit peu volé mon intro en disant que j'avais tourné ma langue 77 000 fois dans ma bouche avant d'écrire cette chronique. Parce que même si, évidemment, j'ai pesé chaque virgule, je sais quand même que je vais en manger toute une de la part de certains lecteurs. Maintenant, je vais répondre précisément à ta question. Pourquoi ce sujet? D'abord parce que ces derniers temps, toi et moi avons souvent parlé des dérapages de certaines nouvelles idéologies et nous avons surtout parlé évidemment du wokisme et de l'obsession de la race. Mais dans tout le champ de l'identitaire, ce qu'on voit moins, c'est tous ces nouveaux débats virulents sur le sexe et le genre. La particularité évidemment de ceci est qu'ils ont pénétrer, si tu veux, le milieu médical, et là, débouche, non pas simplement sur des discours et sur des accusations, mais sur des thérapies médicales sévères, parfois irréversibles, et dans lesquelles, évidemment, beaucoup de gens ont flairé la bonne affaire. Alors, évidemment, je ne nie pas, absolument pas, qu'il existe effectivement quelque chose qui s'appelle la dysphorie de genre, c'est-à-dire que quelqu'un a le sentiment de naître dans un corps qui n'est pas du bon sexe. Et tout cela doit être traité avec un infini respect. Mais là où, évidemment, ça devient extrêmement problématique, et c'est tout l'objet de mon petit texte, qui ne fait que relater une histoire vraie, c'est lorsqu'évidemment la question est soulevée dans le cas d'un enfant, dans le cas d'un mineur, dans le cas de quelqu'un qui n'est probablement pas assez mature pour donner ce qu'on appelle un consentement éclairé. Et je rapporte tout simplement une histoire vraie qui se déroule en ce moment en Colombie-Britannique. Et à ce sujet, Sophie, permets-moi d'ajouter que c'est pas pour rien que dans l'indifférence générale en ce moment, le Parlement fédéral est en train de discuter du projet de loi C6 qui vise justement à baliser et même criminaliser, dans certains cas, certaines thérapies de conversion extrêmement agressives faites sur des enfants dont les statistiques montrent que quand ils seront davantage matures, ils vont tout simplement découvrir qu'ils sont gays. Et c'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, je sais pas si tu as entendu parler de la célèbre affaire Keira Bell en Grande-Bretagne, où une jeune femme de 23 ans avait poursuivi une clinique qui lui avait administré un traitement extrêmement agressif quand elle avait 16 ans pour faire d'elle un homme. Et Madame Bell dit « J'étais trop jeune pour prendre une décision. On aurait davantage dû me mettre en garde. » Et elle a stoppé, évidemment, son traitement. Elle a poursuivi les médecins. Elle vient d'avoir gain de cause. Et ça va probablement, effectivement, marquer le début d'un mouvement pour réaliser qu'il faut aborder ces choses avec une extrême prudence, surtout, évidemment, dans le cas des mineurs.
Oui, et c'est intéressant qu'on ait fait tous les deux ces mises en garde et qu'on marche sur des œufs à ce point-là, parce que regarde, Émilie Dubreuil, qui est une excellente reporter à Radio-Canada, a fait à un moment donné un dossier vraiment très étoffé sur les détransitionneurs, c'est-à-dire des gens qui avaient fait la transition vers un autre sexe et qui, par la suite, ont refait le chemin inverse. Donc, elle avait interviewé plusieurs personnes qui avaient fait ce changement de sexe pour revenir à leur sexe d'origine. Écoute, elle en a payé le prix, c'est-à-dire qu'elle a été harcelée par des lobbies qui ont miné sa crédibilité, qui ont remis en question ses témoignages. Bref, on ne discute pas de ces choses-là de façon sereine. On peut pas en débattre. On peut même pas établir simplement des faits sans qu'il y ait beaucoup beaucoup d'émotivité dans ce dossier-là.
Écoute, Sophie, j'ai envie de parodier les conspirationnistes qui disent « faites vos recherches ». Ben justement, faites vos recherches, n'est-ce pas? Allez sur Internet et regardez le traitement qui a été réservé à une éminente journaliste américaine qui s'appelle Abigail Schreier, qui écrit pour The Wall Street Journal, The New York Times, enfin certains des plus grands journaux, et qui a publié un livre qui s'appelle Irreversible Damage, où elle parle moins des adultes qui se lance en toute connaissance de cause dans ce processus et qui ne m'appartient pas de juger et que je traite avec un infini respect, mais elle parle évidemment des jeunes enfants, particulièrement des jeunes filles. Et elle documente l'incroyable explosion de jeunes filles qui se disent transgenres, les parents qui savent pas quoi faire et qui sont dans une espèce de milieu socio-sanitaire où souvent, à l'école, il y a des vidéos éducatives qui, évidemment, sont moins éducatives que proprement idéologiques. Et il y a véritablement militantes, tout à fait. Et tu as des médecins qui n'ont pas besoin d'appuyer trop, trop fort sur le crayon pour diagnostiquer une dysphorie de genre. Et bien entendu, tant pour Mme Dubreuil que pour Mme Schreyer, que pour possiblement mon modeste petit texte de 500 mots, il suffit évidemment que tu dises cela pour être violemment attaqué par des lobbies militants. Et ce que je relate en Colombie-Britannique, c'est aussi évidemment le sort que le système judiciaire a réservé au père de la jeune fille.
Voilà, et ça fait donne froid dans le dos, Joseph.
Voilà, le père, dans cette affaire-là, n'est pas un de ces types bornés qui dit « non, 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 ma fille est normale », entre guillemets. Non, non, il essaie simplement de comprendre. Et il voit que sa fille est confuse. D'abord, elle s'est dite « garçon », puis « lesbienne », puis elle a tenté de se suicider, puis elle est tombée en amour avec deux de ses profs. Et là, le monsieur dit « wow, 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 c'est peut-être simplement une confusion ». Comme elles sont fréquentes quand on a 13, 14, 15 ans. Mais non, là, le système judiciaire, le processus, si tu veux, s'est emballé et le père se retrouve finalement dans une situation juridico-kafkaïenne, tout simplement parce qu'il dit « wow, 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 c'est irréversible, ma fille est juste confuse, on peut-tu prendre un temps d'arrêt avant de la médicaliser complètement ?» Et ça, tu vois, c'est une problématique dont on commence à prendre conscience, qui a probablement, je te dirais, dans le débat public, été éclipsée par nos débats tonitruants sur le retour de la race comme catégorie d'analyse. Mais il y a aussi toutes ces questions liées au genre. Et je comprends, Sophie, je comprends, loin de moi l'idée de revenir à une définition cateau médiéval de la famille traditionnelle, pas du tout. Je comprends qu'il peut y avoir beaucoup de bon dans cet assouplissement et ce regard plus large sur la diversité. Mais là, on est en train de parler d'enfants qui se lancent dans des procédures compliquées, graves, intrusives, sans avoir la maturité de donner un consentement éclairé. Tu te rappelles de toi et moi, quand on avait 14 ans, est-ce qu'on pouvait donner un consentement éclairé sur ces choses? Mais bien sûr que non.
Oui, non, c'est ça. Ben écoute, oui, et puis c'est une période où t'es tellement en questionnement sur ton identité, sur tout. Premièrement, tu comprends pas tes hormones. T'as toutes sortes de bouts de bouts de corps qui t'apparaissent, toutes sortes de poils qui t'apparaissent à toutes sortes d'endroits. C'est une période de tempête hormonale, parfois incompréhensible, avec des hauts, des bas. Tu te reconnais plus, tu te regardes dans le miroir, tu sais même plus c'est qui la personne dans le miroir.
Absolument. Évidemment, la fillette en Colombie-Britannique ne s'est pas vraiment elle-même exprimée. Elle est une mineure. Mais en Grande-Bretagne, le cas de Mme Bell, lui, évidemment, a fait couler des hectolitres d'encre. Et Mme Bell, évidemment, qui a aujourd'hui 23 ans, est tout à fait en mesure de tenir un discours éclairé. Et elle dit, je cite, « on aurait dû me dire d'attendre ». Essentiellement, elle se décrivait comme un garçon manqué quand elle était enfant. On l'a orientée vers une clinique quand elle avait 16 ans. Elle a commencé à recevoir des bloqueurs de puberté. On a commencé à lui prescrire la testostérone. Sa voix a mué. Et puis, quelques années plus tard, Mme Bell arrête son traitement hormonal et dit, je cite, qu'elle est maintenant prête à accepter son sexe de femme. Alors voilà, Sophie, peut-être aller un peu moins vite, peut-être calmer les ardeurs idéologiques et comprendre la prudence, le doigté, la sensibilité qu'il faut avoir quand on parle d'adolescents souvent confus. Mais non, l'idéologie militante semble plus forte que tout.
Oui. Alors écoute, on va laisser de côté pendant quelques minutes ce sujet très délicat pour aller vers un sujet moins peut-être plus consensuel, en tout cas, cette promesse en tout cas qui risque moins de nous attirer des roches et des Une brique et un fanal, c'est celui, donc c'était une promesse électorale quand même de la CAQ, de cette réforme du mode de scrutin. Eh ben, Sonia Lebel ferme la porte, dit il n'y en aura pas de référendum à ce sujet-là. C'est jamais une très bonne idée quand un parti politique renie un de ses propres engagements. Pourquoi, essaye de faire un peu de pédagogie avec nous, Joseph, pourquoi ces questions de scrutin, de la façon dont on vote, pourquoi est-ce si important, pourquoi on devrait déchirer notre chemise à ce sujet-là?
Bon, alors, premièrement, moi, je ne suis pas de ceux qui vont déchirer leur chemise. Je te soumets d'ailleurs que ceux qui vont déchirer leur chemise sont une petite minorité extrêmement vocale, extrêmement agissante. Je la respecte, mais très franchement, la majorité de nos concitoyens ne se battent pas dans les autobus autour de la réforme du mode de scrutin, bien qu'il n'y a pas grand monde, tu me diras, qui se bat dans les autobus sur quoi que ce soit ces temps-ci. Quoi qu'il en soit, on voyait venir, évidemment, ce freinage de Mme Lebel. Pourquoi? Mais tout simplement, ceci parce que la CAQ vient de se rendre compte qu'elle avait été imprudente en se lançant là-dedans. Et donc, évidemment, on fait maintenant le service minimum en disant « on a déposé un projet de loi ». Mais on se retire de cela. Pourquoi? D'abord, évidemment, parce que la CAQ réalise que c'est pas du tout à son avantage de modifier un mode de scrutin qui lui a bien servi. Mm-hmm. Et aussi, je pense, parce que la CAQ commence à réaliser que c'est peut-être pas dans l'intérêt du Québec au grand complet, la réforme du mode de scrutin. En fait, pour dire les choses brutalement, la réforme du mode de scrutin ferait deux principaux gagnants, Québec solidaire et le Parti libéral. Parce qu'évidemment, le Parti libéral remporte des majorités écrasante dans les comtés de l'ouest de l'île de Montréal, avec un scrutin à la proportionnelle, ce système les avantagerait. Sauf qu'évidemment, ce qu'un mode de scrutin proportionnel provoque aussi, c'est qu'il augmente fortement la probabilité du gouvernement de coalition. Et là, évidemment, la question devient, est-ce que le Québec, dans la situation qui est la sienne dans le Canada d'aujourd'hui, a intérêt à augmenter les chances d'avoir un pouvoir exécutif faiblard soumis à des tractations entre les états-majors de parti. Tu vois, c'est notre bon ami à moi, le politologue Christian Dufour, qui a souvent expliqué que avec l'évolution de la démographie et avec les deux défaites référendaires des souverainistes, la place du Québec au sein du Canada s'est trouvée affaiblie. Et on affaiblirait encore le gouvernement du Québec, le seul contrôlé par les francophones, en augmentant les chances que ce soit un gouvernement de coalition. Tu sais, Sophie, si le gouvernement Legault avait eu besoin de la collaboration du QS ou du Parti libéral, il n'y en aurait pas de loi sur la laïcité. Tu comprends?
Oui,
il faut un pouvoir exécutif fort. Essaie d'imaginer une réforme de la loi 101 avec un gouvernement de coalition.
Et même, excuse-moi, mais essaye d'imaginer la gestion de la pandémie avec un gouvernement de coalition.
Voilà,
alors,
voilà,
je pense que tout a été dit. Écoute, merci beaucoup pour professeur Facal pour ce cours de réforme du scrutin 101. C'est très très instructif et très éclairant. Merci beaucoup. Puis écoute, bonne chance dans la réception des tomates. Je pense que tu vas avoir assez pour te faire une bonne sauce à spaghetti avec les tomates que tu vas recevoir à cause de ta chronique de ce matin. Bon courage, mon cher ami.
Merci, au revoir.
Joseph Facal, qui est chroniqueur blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, que vous retrouvez sur les ondes de Cube Radio, ben, avec moi tous les mardis et tous les jeudis.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Si vous pensez athlète, que vous pensez systématiquement protéines, gros bras, une personne qui mange beaucoup de viande, de fromage, de pepperoni, ben vous allez peut-être changer d'idée après avoir lu le livre « Recettes véganes pour gens actifs » parce que c'est un livre qui est écrit par un athlète, il s'appelle Xavier Desharnais et il est vegan, et un nutritionniste du sport, il s'appelle Nicolas Leduc-Savard et il est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Leduc-Savard, comment allez-vous?
Bonjour Sophie, ça va super bien, vous?
Ben moi j'imagine que vous ça va super bien parce que vous êtes supposément les gens qui mangeaient surtout des plantes, vous êtes supposément regorgeant d'énergie, toujours de bonne humeur, toujours bien reposé après l'effort. Écoutez, c'est quoi le plus gros mythe que les gens ont habituellement quand on parle de nutrition pour les athlètes?
Oui, ben en fait, le plus gros mythe, c'est qu'on ne sera pas capable de combler les besoins d'un athlète juste en mangeant des aliments à base de plantes, alors que c'est pas vraiment vrai. T'sais, on est capable d'aller chercher pas mal tous les nutriments dont on a besoin par les plantes, et t'sais, que ça soit des protéines, que ça soit juste assez d'énergie au total, c'est relativement assez facile lorsqu'on est bien informé d'aller combler tous les besoins, puis même de performer à des hauts niveaux. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, t'sais, qui fait un sport de temps en temps, il n'y a absolument aucun problème non plus. T'sais.
Oui. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a évidemment des recettes pour qu'on puisse, que ce soit qu'on soit vraiment vegan à temps plein ou seulement à temps partiel, mais il y a aussi plein de témoignages d'athlètes qui sont végétaliens. Donc, évidemment, le plus connu, c'est Georges Larac. Mais ça, ça fait des années qu'on sait que Georges est végétalien. Et il fait une réflexion dans ce livre-là qui, moi, m'a un petit peu jeté à terre. Il dit, s'il avait commencé à être vegan plus avant, il aurait eu sa carrière au hockey aurait duré plus longtemps. Est-ce que ça vous a surpris quand il a dit ça, Georges Larac?
Georges, c'est tout un personnage. J'ai trouvé ça vraiment drôle quand il a dit ça. On ne pourra jamais le savoir, malheureusement. Mais ça se pourrait, en fait, parce qu'une alimentation végétale, ça vient avec plein d'autres choses aussi. T'sais, peut-être que ça veut dire qu'avant, il mangeait un petit peu plus d'aliments transformés, il mangeait à des heures moins régulières. Puis là, quand il a commencé à s'intéresser à son alimentation, il a commencé à faire plus attention. Donc, c'est souvent plein de choses qui viennent autour du fait de commencer à manger un petit peu plus de plantes. Ça se peut fort bien, effectivement, que Georges aurait duré plus longtemps dans la Ligue nationale avec une alimentation végétale. Mais je pense qu'il y aurait d'autres facteurs qui seraient entrés en ligne de compte.
C'est ça. Par contre, ce qui ressort des différents témoignages, parce qu'il y en a plusieurs, de différents athlètes, hommes et femmes, qui sont véganes, puis il y a par exemple Mylène Paquette, enfin il y en a plein, c'est que ils disent tous la même chose, c'est beaucoup plus d'énergie, un meilleur sommeil et moins de blessures. Est-ce que c'est vraiment miraculeux à ce point-là d'avoir une alimentation à base de plantes?
Au risque de pas faire le meilleur marketing pour mon livre, je dirais que c'est pas miraculeux, mais c'est au moins aussi bon qu'une diète omnivore. T'sais, c'est en fait souvent, comme je disais, quand on commence à s'intéresser un petit peu plus à son alimentation, à manger au bon moment, à écouter nos signaux de faim, toutes les choses qu'on discute dans le livre, à augmenter la place des végétaux dans notre assiette, ça a juste des bénéfices. Puis quand on parle d'une alimentation, mettons omnivore, où on mange à des heures peut-être déprogrammées ou en fonction de notre heure de travail, ça se peut qu'on manque d'énergie puis qu'on sente qu'on n'est pas à notre plein potentiel, je dirais. Mais certainement, ça peut venir avec l'augmentation des protéines végétales, des légumes, des fruits dans notre assiette, ça j'en suis certain.
Voilà. Alors moi, j'ai été longtemps végétarienne. À un moment donné, j'ai arrêté. Et ce qui me manquait le plus quand j'étais végétarienne, c'était de pouvoir me dire de temps en temps, regarde, ok, je fais super attention, et ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de végétaux, énormément évidemment de végétaux dans mon assiette. Mais de temps en temps, moi, ça me tente de manger un bon poulet rôti. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont, disons, des végétaliens à temps partiel ou qui se permettent des incartades comme ça? Est-ce que c'est correct ou il faut absolument, si on décide d'être végétalien puis qu'on est un athlète ou qu'on fait des performances sportives, il faut vraiment maintenir ça 100% du temps?
Je vous dirais, la meilleure chose qu'on a faite, je pense, pour le livre, c'est que notre critère numéro un, c'était tout le temps la saveur des plats. Donc, peu importe si les gens décident de prendre notre tofu ou notre seitan ou décide de faire une recette avec du poisson ou de la viande, ça va être vraiment délicieux à la base. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça la valeur forte de notre livre. Donc, on force personne à faire quoi que ce soit. On respecte tous les niveaux de cuisine. Tu sais, si quelqu'un ne lui tente pas de commencer à cuisiner du tofu avec notre livre, les recettes qu'il y a dedans sont quand même ultra bonnes, peu importe la protéine qu'il décide de prendre. Mais définitivement, avec le tofu, ça ajoute tofu, seitan, PVT, qui est la protéine végétale texturée, ça ajoute une petite valeur ajoutée, mais on force personne à faire quoi que ce soit. T'sais.
D'accord. Dans le livre, vous commencez au début par des ingrédients avec lesquels les gens sont peut-être pas familiers. Alors, je vais en nommer quelques-uns, parce qu'il y en a peut-être, les gens connaissent, puis d'autres, c'est vraiment, les gens vont se dire, de que c'est. Alors, agar-agar, farine de tapioca, fumée liquide, farine de pois chiche, pâte de miso, bon, ça va, PVT, vous venez d'en parler, du sel Kala Namak et de la poudre de protéines. Alors, est-ce que c'est pas un peu rébarbatif? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, oui, moi, ça me tente d'avoir une alimentation plus végétalienne. Mais là, ils regardent la liste des ingrédients que vous leur proposez, puis vous dites, oh mon Dieu, ça a donc l'air compliqué, cette affaire-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est ça que c'est des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans la cuisine traditionnelle québécoise, je dirais, mais de plus en plus, on voit arriver la levure alimentaire qui est arrivée avec le tofu magique de l'Ouni, peut-être 1 ou 2 ans, qui donne un super bon goût, un peu parmesan, un peu fromagé au plat. La protéine végétale texturée, on en a parlé, c'est une source de protéines pas chères qu'on trouve maintenant partout dans les épiceries, qui est super polyvalente. Le sel Kala Namak, ça c'est super drôle parce que ça a un petit goût soufré, qui rappelle vraiment beaucoup le goût des œufs. Donc, c'est des ingrédients comme ça qui peuvent permettre de vraiment rehausser la saveur des plats végétaliens qu'on a pris soin de faire une petite section au début du livre pour s'assurer que les gens soient pas surpris quand ils voient ça dans nos recettes, parce que ça devient vraiment des piliers pour la saveur ou pour la texture de nos recettes qui sont vraiment pratiques. Puis une fois que les gens vont commencer à les apprivoiser, je suis certain que même si ça faisait pas partie de leur répertoire avant, ça va vraiment bien fitter dans leur garde-manger pour le futur.
Ouais. Alors, il y a des recettes qui sont vraiment surprenantes, honnêtement. Par exemple, un popcorn de haricots blancs, puis la façon dont vous les préparez, bon, vous mélangez les haricots blancs avec de toutes sortes d'ingrédients, puis quand on les met au four, les graines, en fait, les portions de haricots blancs éclatent. Donc, c'est vraiment, ça éclate quand on les met au four comme du popcorn. Ça, j'avoue que vous m'avez jeté à terre.
Oui, exact. Ben, en fait, on a été surpris, nous aussi. Quand on voulait faire juste des haricots blancs rôtis, et quand on les a mis dans le four et que ça commençait à popper, je pense qu'on a été aussi surpris. C'est délicieux, c'est super croustillant. Ça fait une super bonne collation, très protéinée. Je pense que ça va vraiment être une recette. T'sais, en plus, c'est super facile. Il y a comme 5-6 ingrédients. C'est prêt en comme 5 minutes, cuisson 25 minutes. C'est super rapide, puis honnêtement, délicieux.
Donc, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les légumineuses, comme justement les haricots blancs, c'est c'est excellent pour la santé, puis c'est quand même une bonne source aussi de protéines. Est-ce que c'est pas le gros reproche ou la grande crainte que les gens ont par rapport à l'alimentation végétalienne? Je pense qu'il y a une des athlètes que vous interviewez dans le livre qui le dit. Les gens lui demandent tout le temps, ouais, mais comment tu fais quand t'es végétalienne pour avoir des protéines? Et elle a jamais souffert de manque de protéines. Est-ce que c'est pas ça le plus gros mythe par rapport justement à l'alimentation végétarienne ou végétalienne?
Oui, définitivement. C'est notre cheval de bataille du début à la fin du livre de s'assurer d'avoir une bonne quantité de protéines dans toutes les recettes. Quand on a commencé à faire les recettes, on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué et que, puis moi, en pratique privée, en nutrition, je me rends compte que les gens n'ont pas de misère à manger suffisamment de protéines, qu'ils soient omnivores ou végétaliens. Mais c'est vraiment plus la répartition dans la journée qui est pas optimale. C'est-à-dire qu'au déjeuner, on mange vraiment pas beaucoup de protéines et au souper, on mange une énorme quantité de protéines. Donc, dans le livre, on s'est vraiment assuré de faire des recettes de déjeuner avec assez de protéines, des recettes de dîner avec assez de protéines. Même chose au souper. Donc, tout est mieux équilibré, ce qui fait qu'on va avoir une énergie plus stable dans la journée, qu'on va être capable d'avoir une meilleure récupération musculaire. Donc, tout ça, on a pensé en détail à tous ces petits détails-là.
Si on n'est pas un athlète de haut niveau, qu'on est juste, mettons, un citoyen lambda, puis qu'on veut, par exemple, juste, bon, mettons, moi, je fais du vélo, mettons, pas moi, Sophie ouais. Durocher, là, mais mettons un auditeur qui nous écoute, là, lui, il fait du vélo. Donc, qu'est-ce que vous lui recommandez de manger avant de faire, mettons, il part à faire une longue promenade à vélo, là, assez intense, manger avant, manger pendant, manger après?
Excellente question. C'est mes questions préférées pour la nutrition sportive. Dans le fond, avant une longue randonnée à vélo, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir de l'énergie et être bien hydraté avant de commencer. Et on veut aussi ne pas commencer notre effort en ayant trop faim. Donc, oui. on va boire beaucoup d'eau. On va boire peut-être une gourde d'eau ou un gros verre d'eau 2 heures avant l'effort à peu près. Après ça, pour avoir de l'énergie, on va manger une collation qui est très riche en glucides. Donc, les glucides, on le répète aussi à travers le livre, c'est vraiment pas le démon, c'est le carburant préféré de notre corps quand on fait du sport. Donc, on va manger, par exemple, pour ce que les gens ont à la maison, ça pourrait être une toast avec un petit peu de beurre d'arachide, de la confiture. Dans les recettes du livre, on a beaucoup de, par exemple, les popcorns d'haricots blancs sont riches en glucides. On a un genre de petit pudding pre-workout qu'on appelle, qui est à base de cacao, qui est délicieux. On a des boules d'énergie, par exemple. Donc, plein de sources de glucides qui pourraient être utiles pour avant l'effort. Pendant, dépendamment de la durée, on va vouloir boire beaucoup d'eau pour s'assurer d'être bien hydraté. Mm-hmm. Si l'effort dure plus qu'une heure et demie, ben là, on va vouloir prendre de l'eau, oui, mais un peu de glucides aussi. Fait que là, il y a des boissons sportives qui peuvent être utilisées pour refaire nos réserves d'énergie au fur et à mesure qu'on fait notre sport. Et en terminant, ben là, on va vouloir un petit peu de protéines pour bien récupérer. Donc, soit on mange un repas complet, dont on a beaucoup, beaucoup de recettes dans le livre, où on pourrait peut-être manger une petite collation riche en protéines, comme par exemple notre pain aux zucchini musclé, comme on l'appelle, qui pourrait être une super bonne source de protéines.
Je vais vous poser une question délicate, d'accord?
Oui. Okay.
Les gens associent habituellement les athlètes à la force, à quelque chose de très viril. C'est comme un stéréotype, là. Tu sais, quand tu regardes Georges Larac, c'est les gros muscles, c'est la testostérone et tout ça. Comment vous faites pour réconcilier cette image-là avec le fait de manger du kale et des haricots blancs? Tu sais, ça, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, oui, 100%. C'est drôle parce que je pense que du kale, on n'en a même pas dans le livre. Mais...
Non, c'est pas vrai. Il y a une de vos athlètes qui dit que après l'effort, elle se prépare un smoothie avec du kale et de la mangue ou quelque chose comme ça. Donc, voyez, je l'ai lu votre livre.
Bon, merci. Donc, comment on réconcilie l'image? En fait, on n'a pas besoin de. Je pense qu'on n'a pas besoin de réconcilier. Les gens vont le voir d'eux-mêmes. Tu sais, quand on a un de nos, ben, mon co-auteur, Xavier, qui a passé sa vie à manger et qui, à partir du moment où il a commencé à manger plus de végétaux, il a gagné pas une, mais deux fois la traversée du lac Saint-Jean. Quand on pense à Georges Larac, qui mange surtout des plantes et qui est un homme baraqué, tu sais, quand on pense à un autre des athlètes qui, dans le livre, Antoine Gelcoeur-Desroches, qui performe extrêmement bien dans ses triathlons, dans ses Ironman, en mangeant encore exclusivement des plantes. On peut penser aussi à des femmes, tu sais, qui sont extrêmement fortes, comme Lisanne Richard, qui est plongeuse de haut vol, qui mange aussi surtout des plantes. Tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir à le prouver. On observe leur performance puis on comprend que on n'a pas besoin de manger énormément de viande pour être capable de performer.
D'accord. Votre livre est publié aux éditions K.O. Les éditions K.O., ben, c'est la maison d'édition de Louis Morissette. Est-ce que vous avez réussi à convaincre Louis Morissette ou même Véronique Cloutier de devenir végétalien?
Ben, on leur a pas parlé personnellement, mais je pense que le but avec le livre, c'est pas nécessairement de convaincre les gens directement. C'est vraiment plus de leur montrer que c'est possible, ça va goûter extrêmement bon, peut-être même mieux que ce qu'ils font à la maison présentement. Donc, c'est vraiment d'aller chercher les gens par le bedon plutôt que par en culpabilisant quiconque. Donc, on y va avec une approche qui est super inclusive. Si les gens, comme je disais au début, si les gens veulent cuisiner avec les protéines qu'ils ont à la maison, il n'y a aucun stress, on respecte le choix de tout le monde. Fait que le but, c'est vraiment de faire des recettes qui s'adressent à tout le monde, du plus exclusif qui est végétalien au plus inclusif qui serait, mettons, omnivore, mais qui va vraiment adorer nos recettes, même s'il n'y a pas de viande dedans. T'sais.
Oui. Alors, pour conclure, vous nous disiez tout à l'heure, on parlait du kale. Ben, je viens de trouver une autre recette dans laquelle il y a du kale. C'est le houmous au kale et au citron.
Oui.
Alors voilà. Hein? Donc, comme quoi, le kale est quand même présent dans votre livre. Ben, écoutez, ça a été vraiment un plaisir. Puis je dois dire que, bon, les livres de recettes, évidemment, on regarde les photos. Puis ça, normalement, le test, c'est est-ce qu'en regardant la photo, on commence à saliver puis on a le goût de se précipiter dans notre cuisine. Donc, votre livre passe le test vraiment sans problème. Je rappelle que ça s'appelle, donc, recettes véganes pour gens actifs. Nicolas Leduc-Savard, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, puis bon, ben ça me donne le goût tout ça de me faire un petit smoothie kale et mangue, parce que c'est un effort quand même.
Essayer les haricots.
Oui, ça c'est sûr. Les haricots blancs éclatés, peut-être pour faire compétition avec le popcorn de Vincent Guzzo. Bonne idée. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci à vous, c'est super plaisant.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous connaissez sûrement l'expression « quand la vie vous envoie des citrons, faites de la limonade ». Ben, je pense qu'il faudrait changer cette expression-là et il faudrait maintenant dire « quand le gouvernement Legault vous empêche de vendre du popcorn dans vos cinémas, partez donc votre propre compagnie de popcorn ». En tout cas, c'est ce qu'a fait Vincent Guzzo. Il est entrepreneur, directeur général des cinémas Guzzo et un ami à moi. C'est la raison pour laquelle je le tutoie. Bonjour Vincent, comment vas-tu?
Ça va très bien. Toi, Sophie?
Ça va très bien, grazie mille. Vincent, donc, on se rappelle tous du fameux Popcorn Gate, quand le gouvernement a dit « OK, on va réouvrir les cinémas, mais les gens vont devoir porter le masque pendant toute la durée du film, donc on interdit la vente de popcorn ou d'aliments et de boissons ». On se rappelle tous de cet épisode-là. Est-ce que c'est à ce moment-là que toi, t'as décidé, bon, ben, vu que le gouvernement veut pas que je vende du popcorn, je vais le vendre moi-même et en dehors du cinéma?
Non. La vérité, c'est, alors, si je voudrais faire semblant d'avoir fait le pivot du siècle, je te dirais, oui, c'est comme ça, mais non, la vérité, c'est qu'on a déjà commencé à travailler sur ça au mois d'août 2020. Et
d'accord.
Le but, c'était de mettre ça dans les salles de cinéma pour donner une offre secondaire au popcorn frais et de donner du popcorn assaisonné, donc piquant, aux truffes, au parmesan, et de donner aussi du, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, du candy popcorn, que ce serait du popcorn caramélisé.
Oui.
Mais vu que Noël n'était pas Noël pour tout le monde, parce que le Grinchu, il a dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir Noël, puis là, on s'est dit, bon, on va attendre, puis là, éventuellement, on a dit, bon, on va arrêter d'attendre, puis on va faire qu'est-ce qu'il faut faire.
Donc, normalement, ton popcorn, tu l'aurais sorti dans le temps des fêtes, puis là, tu le sors maintenant. Donc, c'est des grands sacs, des sacs familiaux de popcorn. T'as eu la gentillesse de m'en envoyer des exemplaires, donc j'ai pu le goûter. Je te fais le bilan à la maison de ceux qu'on a préférés. Donc, maman du Rocher a préféré celui qui est au chocolat et aux bananes, et mon fils qui a 13 ans, son préféré c'est le 9-1-1 Sriracha qui est le plus piquant, et Richard, ben il est au régime, fait qu'il y en a mangé aucun. Bon.
Mais il aurait dû manger cela au bal, le popcorn, le movie style, c'est ça qu'il aurait
ouais.
dû manger. C'est moins de calories que beaucoup d'autres choses que je suis sûr qu'il est en train de manger.
Bon, alors écoute, je veux revenir quand même à cette controverse sur le popcorn. Donc toi, tu avais décidé, vu que le gouvernement ne permettait pas la vente d'aliments dans les cinémas, tu avais décidé donc de garder tes cinémas fermés. Est-ce que tu regrettes cette décision-là aujourd'hui ou tu penses encore que c'est la bonne décision?
Non, je pense que c'est la bonne décision à deux niveaux, au niveau affaires. C'était la bonne décision. C'est pas un secret que certains des autres propriétaires indépendants au Québec ont tous dénoncé la quantité de pertes qu'ils ont maintenant, parce qu'il y avait eu une promesse de fait que c'était juste pour une semaine, juste pour faire sauver face au gouvernement. et deux, sur une base intégrité, moi, là, me faire dire que, et je pense que dans ton cas, toi, tu l'as bien dit, c'est le gouvernement qui a décidé, c'est pas la santé publique qui a décidé ça. Et donc, pour moi, des décisions politiques frivoles ou bien arbitraires, là, je pense qu'après 13 mois, on est tous là pour essayer de se tenir debout et dire au gouvernement assez, c'est assez, là. Faut pas charrier, là, comment on dirait.
Ouais, mais il y a de plus en plus de gens qui parlent, puis même Monsieur Dubé lui-même a ouvert la porte, même si Dr Arruda a pas l'air trop chaud à l'idée. Monsieur Dubé a ouvert la porte à la possibilité, en tout cas, il y a des gens qui se penchent là-dessus, d'avoir un passeport vaccinal. Ce que ça signifierait, c'est que les gens qui sont pleinement vaccinés pourraient avoir accès, et on pourrait par exemple réouvrir donc pleinement les cinémas aux gens qui sont pleinement vaccinés. Donc moi, je veux savoir, au jour d'aujourd'hui, 29 avril 2021, Vincent Goudzeau, qu'est-ce que tu penses du passeport vaccinal pour les cinémas? Est-ce que tu vois, tu réouvrirais tes cinémas si on les rendait disponibles pour les gens vaccinés, puis on pourrait se bourrer la face de popcorn?
Moi, je pense que le concept du passeport vaccinal peut paraître logique et sensé. Mais reste le fait que c'est une grande violation des droits individuels et ça n'a pas démontré dans le passé une certaine logique au niveau des commerces. Ça l'a démontré pour des pays. En autre mot, à l'entrée du pays, on doit prouver qu'on a été vacciné. Ça arrive encore aujourd'hui. Si on veut aller en Afrique, il faut avoir certains vaccins avant d'être admis dans le pays. Mais pour des commerces, ça commence à être de la logistique infernale. Et je pense que, tu l'as dit, M. Dubé a lancé ça, puis 24 heures plus tard, il a fait marche arrière très vite. Et le docteur Arruda a très clairement dit que non, c'est pas une bonne idée. Il faut comprendre que on a déjà des fois des choses qui nous rendent... on est tous dans la même société, mais on est désavantagé, soit parce que du revenu ou quoi, etc. Si là, on commence par décision ou par accès, parce qu'il faut quand même comprendre que moi, mettons, mes enfants, ils n'ont pas le droit encore au vaccin. Ça voudrait dire que pour avoir un vaccin, un passeport vaccin, il faut avoir le droit d'avoir eu le vaccin. Ça voudrait dire que mes enfants ne pourraient pas aller au cinéma parce que le gouvernement n'a pas fait sa job et nous a pas donné assez de vaccins pour être capable de vacciner tout le monde. Donc, s'il veut faire un passeport vaccin dans 2 ans, une fois qu'il y aura tout vacciné la population, puis ils auront tous les vaccins qu'ils ont besoin, bon, mais c'est une autre histoire. Mais il faut aussi comprendre qu'on ouvre la porte à des mises à jour après de ce passeport-là. Est-ce qu'on va devoir, après, avoir des vaccins 2.0, 3.0, puis 4.0? Ben là, il faut pas. Je pense que les violations individuelles, il faut se calmer un petit peu, là.
Ouais, tu veux dire un passeport 2.0 parce qu'il va y avoir des variants, donc il va falloir avoir une modification au vaccin, donc il va falloir que notre passeport vaccinal soit mis à jour au fur et à mesure qu'il y a des mises à jour des vaccins. Mais j'avoue que ton argument pour les enfants est très bon, c'est-à-dire que pour l'instant, on parle de vacciner, il faut donc qu'il y ait une immunité, donc qu'il y ait 75 à 80% de la population qui soit vaccinée, et pour l'instant, on parle pas de vacciner les enfants, mais qu'est-ce si on te disait demain matin, il y a un passeport vaccinal et il faut l'avoir pour pouvoir aller au cinéma, mais les gens de moins de 16 ans, qui de toute façon ne sont pas admissibles pour l'instant au vaccin, eux peuvent rentrer au cinéma sans avoir besoin du passeport vaccinal. Est-ce que ça, tu serais d'accord avec ça?
Donc là, tu veux me compliquer la vie encore plus à faire la police à tout le monde et demander des cartes d'identité et tout ça. Il faut comprendre que premièrement...
Vincent, t'exagères, là. Pour rentrer dans un bar, faut que tu montes ta carte d'identité comme quoi t'as plus de 18 ans. C'est pas si compliqué que ça. Quand les gens arrivent au cinéma, au moment où ils achètent leur billet, de leur demander une carte d'identité, as-tu plus de 18 ans, moins de 18 ans?
Puis t'as sur ton... Très surpris.
Oui, pourquoi?
Je serais très surpris de voir la réaction du monde, premièrement. Deuxièmement, tu dois comprendre que présentement... on est en train de vacciner les 40 ans et plus, la clientèle cible majoritaire, là, 70% de notre clientèle, c'est les familles et c'est le monde moins de 30 ans. Donc, présentement, ma clientèle cible est même pas en train d'être vaccinée. Là. Donc, là, vous allez me dire, ouvrez, faites-nous une fleur, donnez un semblant de normalité, mais faites la police en demandant à tout le monde un passeport et demandez une carte d'identité, une carte maladie ou n'importe quoi. Comme je te dis, là, faut pas augmenter le fardeau d'opération ou de complexité juste parce que on est en train d'essayer d'accomplir quelque chose qui fait pas de sens. Et je vais te dire, si c'est vrai, qu'est-ce que la santé publique a dit publiquement, qui est, on doit atteindre un certain niveau, 75, 70% de vaccins comme ça, il y a une vaccination collective. Bon. Pourquoi d'abord, une fois qu'on est arrivé, pourquoi qu'on n'essaye pas d'arriver à ces chiffres-là, au lieu d'essayer d'imposer par peur ou par contrainte ou par, c'est quand on parle de passeport vaccinal, on crée que tous les anti-vaccins, tout d'un coup, commencent à avoir un argument pour dire, tu vois, je te l'avais dit que c'était pour, tu sais, versus, mettons les contraintes de côté, soyons logiques, expliquons le positif du vaccin. Essayons pas de faire le rigolo quand malheureusement il y a une tragédie quand quelqu'un a pris un vaccin et est décédé, au lieu de dire oh, j'aurais dû pas dire ça ou comme si c'était comique. Puis soyons plus respectueux des droits du monde. Et le monde va nous respecter en conséquence. Là. Faut se le dire là.
Est-ce que tu vas te faire vacciner,
la normalité
toi?
Est arrivée.
Oui, ben surtout en Floride, là. Ouais. Est-ce que tu vas te faire vacciner?
Oui, la minute qu'on me dit que l'équipe de filmage va être là parce que supposément je dois le filmer pour essayer de comme influenceur je dois essayer de faire voir aux Canadiens anglophones que c'est correct de prendre un vaccin. Donc moi, je veux pas, comme je vous dis, je suis pas pro vaccin, je suis contre le vaccin, mais comme je vous dis, je vois les bénéfices présentement. Donc je vais sûrement le prendre dans une couple de jours, et puis comme tu dis, j'attends l'équipe qui va filmer ça, mais est-ce que l'imposer à tout le monde, c'est pas ça le Québec que moi je veux habiter dedans ou que je suis habitué à habiter dedans.
Oui, mais Vincent, il y a personne qui parle. Le vaccin n'est pas obligatoire. Il y a personne qui parle d'imposer le vaccin, là. Le vaccin,
oui,
c'est
mais,
sur une base
si
volontaire.
Non, Sophie, c'est ça qu'il faut faire attention. Quand on parle d'un passeport vaccin, c'est une manière indirecte de dire, si tu veux vivre normalement avec tous les pleins droits d'un Québécois, tu dois avoir le vaccin. Sinon, tu peux pas aller dans un restaurant, tu peux pas aller au cinéma. Donc, tu es en train de me brimer dans mes droits. Donc, tu es en train de rendre la vaccination obligatoire indirectement.
Par la banque. Ouais.
Ben, c'est ça. Puis ça, c'est illégal. Là. Ça va être contesté. Et donc, je pense que les deux comptables, là, au lieu de penser à de la comptabilité, qu'ils fassent un petit peu de légal aussi. C'est important.
Qui tu parles, les deux comptables? Qui tu traites de deux comptables, là? Legault et Dubé?
Ben oui, c'est deux comptables, non? C'est pas deux comptables de formation. Ben, c'est ça. Donc,
ça,
les comptables.
Ouais,
mais c'est les comptables aussi qui utilisent les arguments à dire si au lieu de couper 20% dans le gras, on en coupe 50, ça va aller mieux. Donc si on est plus sévère, ça va aller mieux parce que on oublie qu'il y a de la santé mentale dans toute la santé publique. Tu sais, faut se dire que qu'est-ce qui est en train d'arriver présentement au Québec, ça s'appelle de l'ingérence dans le fonctionnement de la santé publique par un gouvernement. Ça voudrait dire que c'est des décisions politiques qui viennent affecter la santé publique, mais on utilise les droits extraordinaires de la loi sur la santé publique pour déclarer une urgence sanitaire à tous les 10 jours automatiquement, puis devoir pas répondre au monde, puis pas devoir répondre aux partis d'opposition, et même être condescendant des fois même envers les chefs des partis d'opposition. T'sais, on est en train de utiliser des droits extraordinaires pour des décisions politiques.
Vincent, as-tu écouté les Oscars?
Y avait-tu quelque chose à écouter? Tu sais, ben non, mais faut être sérieux parce que là, tu sais, je pense que c'est notre ami Laporte qui a dit que les Oscars sans clip de film, c'est comme un popcorn sans film. Et c'est exactement ça que je dis moi aussi. C'est pas
ça avait aucun sens
pour les Oscars.
il n'y avait pas de clip des films. Il n'y avait pas d'extrait de film où il y en a eu peut-être deux ou trois à un moment donné dans une des catégories. C'était la fête du cinéma sans cinéma. Faut le faire quand même. C'est comme je fais un party pour Vincent Goudzou, mais Vincent Goudzou n'est pas invité. C'est complètement exactement. Ridicule. Donc,
j'ai pas regardé. Même si, comme je te dis, je suis plus un fan du red carpet puis de la première heure, parce qu'arrivé à la deuxième, ça commence à être plate à la cérémonie. Là.
Oui, ben là c'était plate l'avant puis le après puis le pendant puis tout était plate puis en plus ils ont donné l'Oscar du meilleur film avant de donner celui de meilleur comédien à meilleure comédienne. Habituellement ils font l'inverse puis ça finit en apothéose avec le meilleur film. Là ils avaient inversé l'ordre, c'était un petit peu incompréhensible. Par contre, on sait quels sont les films qui sont en nomination, donc, pour le gala Québec Cinéma, qui va être animé par Geneviève Schmitt à Radio-Canada le 6 juin. Est-ce que tu as pris connaissance des noms des finalistes et est-ce que tu te mords les doigts un petit peu en disant, bon, ben, c'est plate, mettons la déesse des mouches à feu, là, 15 nominations, ben, toi, t'as pas pu vraiment le montrer dans tes cinémas. Est-ce que tu vas avoir un pincement au cœur le 6 juin?
Non, je vais être content pour la DS. Je pense qu'elle a mérité la reconnaissance qu'elle a eue du public. Et c'est un petit peu, vous savez, quand en 2012, on a créé controverse avec le commentaire que j'ai fait, c'était pas, moi je veux pas montrer des films qui plaisent à Vincent Goudzou. Moi je veux montrer des films qui plaisent à ma clientèle ou aux Québécois qui vont au cinéma. Et donc, La Déesse, c'était un film qui a plu, et j'en suis content et fier que je l'ai joué quand j'ai pu le jouer. Et j'ai pas eu de problème non plus que M. Legault vende ce film-là, même si avec Geneviève, des fois, on n'était pas les plus gentils quand on se faisait interviewer, mais c'est correct, c'est pas de rancune. Je suis fier pour elle, puis je pense que si elle peut faire un autre film, on va être content de le jouer, comme on a joué tous les films québécois. Ceux qui ont marché, ceux qui ont moins bien marché commercialement, ceux qui étaient prisés à travers l'international ou ceux qui étaient prisés au Québec. Donc, je suis content, alors, mais...
OK. On va se quitter là-dessus parce que c'est tout le temps qu'on a. Donc, je rappelle simplement, Vincent, que tu sors donc cette ligne de popcorn griffé et les autres serveurs qui vont être mis sur le marché bientôt, il va y avoir le pain doré, parmesan et barbe à papa. C'est assez particulier comme saveur. Et truffe, mais c'est à ton image, on aime ou on n'aime pas, mais l'important c'est que ce soit relevé puis que ça ait du goût. Alors, merci beaucoup Vincent Goudzou, ça a été un plaisir de te parler. Vincent donc qui est entrepreneur et directeur général des cinémas Goudzou, toujours une opinion assez tranchée comme le pain doré. Bon, voilà, c'était ma petite blague de fin d'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy, la mise en onde. Merci à William Boivin, à la recherche. Et on se retrouve demain. Cube Radio.